On va pas se laisser faire par un lundi chômé, c'est le front du lundi. Aujourd'hui, on va parler du nucléaire parce que Bure 365, c'est parti. Alors, après avoir expliqué tranquillement ce que veut dire Bure 365 et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, on s'écoutera une petite histoire de la contamination nucléaire du monde, une rediffusion.
D'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron, et c'est l'hydrogène. Deux, c'est l'hélium. Trois, c'est le lithium. 92, c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seuls quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils ? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix ?
Le nucléaire et son monde, on en parle souvent sur le front du lundi. L'industrie nucléaire, c'est le must de la science de pointe, de la créativité, de l'innovation, du bien-être pour tous et toutes. Des investissements faramineux, un projet de puissance nationale et surtout un aveuglement complet aux conséquences réelles de ce mal nommé progrès. Alors, on vous avait laissé entendre l'incurie des pouvoirs publics en cas d'accident lors d'un exercice à la centrale de Goldflech, dans une émission précédente réécoutable sur canalsud.net. Mais le nucléaire, ce n'est pas seulement le risque de l'accident. La catastrophe nucléaire, c'est aussi son fonctionnement normal de tous les jours. Pour la société tout d'abord. En effet, le programme nucléaire s'est mis en place en détruisant ce que ce système pouvait avoir de façade démocratique. Une industrie à haut risque, sensible, comme ils disent, ne peuvent fonctionner sans secret, sans mensonge, sans une organisation verticale autoritaire de la société. À ça s'ajoutent les incidents, les fuites, les contaminations des ouvriers et ouvrières du nucléaire, et aussi la production continue de déchets, complètement ingérables. Dans la seconde partie de cette émission, donc, vous pourrez écouter une petite histoire de la contamination nucléaire du monde qui retrace la gestion, si on peut dire ça comme ça, des déchets de la recherche, de la production de la bombe et enfin de la production industrielle d'électricité nucléaire. Alors voilà, on s'intéresse beaucoup au nucléaire ici. Alors quand on lit dans la détresse du midi le 5 juin ce petit article, une vingtaine de véhicules de service vandalisés, les pneus crevés et les tags sur la façade du siège de RDF Midi-Pyrénées Sud à Bassoncambo. Se revendiquant du réseau sortir du nucléaire, un commando du BUR 365 a mené dans la nuit de dimanche à lundi ses dégradations ciblées contre ERDF. Des dispositions ont été prises pour que ces actes de vandalisme n'aient pas d'impact sur nos services et la clientèle, indique-t-on à la direction de RDF qui a déposé plainte en début de semaine. Depuis le 1er juin, des militants antinucléaires ont lancé la campagne BUR 365 qui vise à mener des actions diverses sur le territoire pour manifester leur opposition à, notamment, l'enfouissement des déchets radioactifs. Voilà, un entrefilet, un fait divers parmi d'autres. Merci, bonsoir, on passe à la suite. Alors bien entendu, le journal de la démocratie prend garde de ne pas creuser l'affaire. Heureusement qu'on a Canal Sud 92.2 05 61 53 36 95. Parce que d'abord, sur Toulouse, on a une autre action qui avait eu lieu quelques jours auparavant. Sur le site de Montaudran Aerospace, le campus Montaudran Aerospace, endroit où, entre autres choses, le CEA, commissariat à l'énergie atomique, veut installer une usine à petits soldats du nucléaire, des têtes bien pleines pour continuer la nucléarisation du monde déjà bien avancée. Vous pouvez lire les revendications complètes sur iaata.info, iata.info, information anti-autoritaire, Toulouse et alentour. Alors, qu'est-ce que c'est donc ce truc que BUR 365 ? On va commencer par présenter qu'est-ce qui se passe à BUR en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans l'Est ? Eh bien, ils ont installé, il y a un moment, après une loi de 91, un laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires. Il s'agit de trouver une solution finale pour les déchets nucléaires. Porté par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, le projet vise à enfouir à 500 mètres de profondeur entre la Meuse et la Haute-Marne les 80 000 mètres cubes de déchets à haute activité ou à vie longue issus de la filière électronucléaire française. Les travaux doivent débuter en 2019 après qu'une enquête publique pour une mise en service en 2025. Voilà. Donc que disent les opposants ? Enfouir les déchets hautement et moyennement radioactifs à vie longue, un pari fou. Aucun pays au monde n'a de solution pour les gérer. On ne sait pas réduire ni neutraliser leur radioactivité. Enfouir consiste à confiner celle-ci le plus longtemps possible, mais un jour, quand ? Les conteneurs se dégraderont et elle remontera à la surface. C'est inéluctable. Ces déchets sont contaminants et dangereux pour des milliers d'années. Donc bien sûr, tout cela sans concertation ni explication. Depuis l'origine de ce processus, il n'y a jamais eu aucune consultation des populations concernées, et les riverains manquent véritablement d'informations sur ce qui se prépare, notamment sur un premier centre de stockage en surface, attente et conditionnement, indissociable du centre d'enfouissement à 500 mètres sous terre. Et oui, ça peut pas arriver comme ça, et puis hop, passer directement sous terre, non, il faut à un moment les poser dans un coin et les amener ensuite à 500 mètres sous terre. Et puis ceci, il faut les amener sur le site. Donc transport de déchets nucléaires, transport dangereux. Le centre de stockage temporaire de surface durera 100 ans au minimum. Ça c'est une petite temporalité, hein. Chacun a ses visions du temporaire. Ce sera une source de contamination radioactive qui touchera les riverains dans quelques années. Les transports nucléaires à haut risque seront de l'ordre de 2 arrivées ferroviaires par semaine, avec de multiples trafics d'acheminement sur le centre. Alors bien sûr, pour faire tout ça, ils ont acheté le silence comme ils font un peu tout autour des centrales. Des dizaines de millions d'euros sont déversés chaque année en Meuse et en Haute-Marne, département mitoyen, alors qu'aucun déchet nucléaire n'est encore arrivé. C'est 30 millions d'euros par an pour chacun de ces départements, s'infiltrant dans tous les projets sans que les habitants et habitantes le sachent. Cela pose un véritable problème démocratique. Oui, on voit cette manne arriver, bien sûr, personne ne crache dessus, et pourtant, qu'est-ce que c'est sinon l'ANDRA qui achète ? Alors, BUR en 2011-2012, l'ANDRA a proposé au gouvernement, début 2010, une zone de 30 km² entre 4 villages meusiens, BUR, Ribeaucourt, Bonnet et Mandre. Pour l'ANDRA, rien ne s'oppose à l'implantation du site des autorisations en 2015. Pour les nombreux opposants et experts indépendants, cet enfouissement est un pari insensé. Un rapport d'expertise indépendant met en évidence, début 2011, de nombreuses incertitudes et doutes sur le programme développé par l'ANDRA et dénonce un calendrier trop tendu. Le laboratoire de recherche géologique de 1994, donc parce qu'au départ tout ça était un test, même si on savait que forcément on n'avait aucune autre solution que d'enfouir, hein, de mettre sous le tapis, un tapis de granit cette fois-ci, tous ces déchets nucléaires. Donc ce laboratoire, créé en 1994, est transformé en projet CIGEO, Centre Industriel de Stockage Géologique. Le labo est devenu CIGEO. C'est un joli nom, n'est-ce pas ? Qui peut faire le lien avec les effroyables produits atomiques dont il s'agit et dont on ne parle jamais. En 2012, CIGEO La Poubelle est passé en phase de conception industrielle, le projet ayant été confié à un opérateur extérieur à l'ANDRA, ce que dénonce la Commission nationale d'évaluation dans son rapport numéro 5. Une méga poubelle atomique concentrée dans l'est de la France sur un mouchoir de poche. Sont déjà stockés dans l'Aube les déchets très faiblement radioactifs et les déchets faiblement radioactifs à vie courte, à savoir que Bure sous l'Aisne sont distants d'une soixantaine de kilomètres. Concentrer tous les déchets issus du nucléaire et du démantèlement des centrales sur cette région résulte d'une politique territoriale au service de l'atome, mais pas des habitants et habitantes appelés à en subir toutes les nuisances. Alors voilà. On les connaît, les Cassandres du risque industriel. Ce sont les mêmes qui ont répété pendant 20 ans que AZF allait nous péter à la gueule. Oui, bon, c'est arrivé, mais bon, le nucléaire, c'est autrement plus sûr, quand même. Aux États-Unis, il y a déjà des centres d'enfouissement qui se sont rappelés à notre bon souvenir en ce début d'année. En catimini, dans certains médias, on pouvait lire. Donc c'était le 5 février 2014. USA, une catastrophe nucléaire en cours à 655 mètres sous terre au centre de stockage de déchets radioactifs du Nouveau-Mexique. Depuis le 5 février 2014, une catastrophe nucléaire est en cours au centre de stockage profond de déchets radioactifs au Nouveau-Mexique. Un incendie dans la zone nord, puis 9 jours plus tard, un relâchement de radioactivité dans la zone sud, se sont produits au WIP, Waste Isolation Pilot Plant, qui est prévu pour entasser 176 000 mètres cubes de déchets transuraniens contenant notamment de l'américium et du plutonium issus d'activités nucléaires de défense de l'armée. Recherche militaire et production d'armes nucléaires. Un ou plusieurs conteneurs se sont ouverts à 655 mètres sous terre suite à une explosion d'origine chimique. La radioactivité la plus terrible, plutonium, américium, s'est échappée et s'échappe encore. Et oui, pas facile de refermer ces petits conteneurs une fois qu'ils ont explosé. Alors bon, ça fait des mois, c'était aussi un autre entrefilé dans nos journaux locaux et nationaux, et depuis, pas trop de nouvelles. Et pourtant, si on fouille un peu, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, sur Mediapart, on avait un peu des infos. Donc, 4 mois après la fuite de radioactivité sur le site de stockage du Nouveau-Mexique, les responsables ne disposent toujours pas d'une explication cohérente. Mais ils ont 2 hypothèses, ce qui est déjà pas mal. Alors, soit il s'est produit une réaction chimique entre la litière de chat utilisée et des nitrates présents, ce qui a causé une forte élévation de température, elle-même responsable de la détérioration des conteneurs et de la libération de leur contenu radioactif. Alors moi, je vous avoue que j'ai cherché qu'est-ce que foutait cette litière de chat utilisée et les nitrates présents. Hein, est-ce qu'ils ont mis des chats pour voir comment ça se passe, ou est-ce qu'ils ont mis de la litière pour absorber l'humidité? On ne le saura peut-être jamais. Mais il y a une autre explication possible, une autre hypothèse, soit d'autres produits de nature organique utilisés pour neutraliser une éventuelle acidité ou alcalinité dans ou autour des conteneurs sont en cause. En gros, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc face à ce risque qu'on commence à faire la même chose ici qu'on a fait aux États-Unis, avec les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a une AG qui s'est tenue, donc une résistance, une AG antinucléaire, le grand test de Bure, c'était le 1er juin, et c'était donc pour lancer cette campagne Bure 365, donc 365 jours pour contester ce qui se passe à Bure. Notre colère est plus grande que jamais. Ce ne sont pas les 2 années supplémentaires de délai administratif annoncés par l'ANDRA qui vont nous calmer. Plus le temps passe, plus les échéances vers la demande d'autorisation de création se rapprochent, avec ou sans phase expérimentale pour l'ANDRA. 2025 devrait voir arriver les premiers colis de déchets. Nous ne laisserons pas faire. Depuis août 2013, au dernier petit festival contre la grande poubelle nucléaire, s'est mise en place une assemblée Grand Est dans l'objectif de renforcer la mobilisation locale, mais aussi de l'élargir en France et chez nos voisins européens. Nous sommes gonflés à bloc, car les dernières actions de boycott du débat public nous ont prouvé que la mobilisation pouvait faire vaciller le projet. J'y reviendrai tout à l'heure. Année après année, jour après jour, le projet d'enfouissement en grande profondeur des déchets radioactifs, maintenant appelé CIGEO, accumule les questions sans réponse. C'est le projet le plus opaque, le plus risqué et le moins crédible du siècle. Et pourtant, il y en a eu. Bure n'est pas un problème meusien ou haut-marnais, il nous concerne tous et toutes aux quatre coins du pays et en Europe et au-delà. Voilà, donc depuis le 1er juin, Bure 365, c'est parti.
Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing.
Quoi, quoi.
Oh, je vous en prie. Hein. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin, Bicêtre. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer, j'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer d'Iterranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Robert.
Quoi, quoi.
Vous êtes ridicule. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin, biceps.
Et oui, tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Donc n'oublie pas de dire non, 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 non. Alors, quand même, pour ceux qui s'inquiéteraient de notre démocratie et qui diraient « mais pourquoi s'opposer alors qu'on pourrait discuter ?» Eh bien, il y a eu un débat public organisé par la Commission nationale du débat public qui était chargée par l'État d'organiser donc un grand débat public qui est une étape obligatoire pour valider l'enfouissement à Bure. Donc, il fallait absolument que ça se passe. L'enjeu, c'était informer précisément le public, permettre à la population de s'exprimer, éclairer le décideur, ici l'État, sur la décision qu'il prendra au final sur la création du centre. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, le nucléaire ne peut pas fonctionner sans opacité, sans autoritarisme. Eh bien, un autre exemple patent. Et qui nous confirme ça ? Eh bien, c'est Philippe Marzolf, vice-président justement de cette Commission nationale du débat public de 2002 à 2013. Il a déclaré dans un article à Politis le 13 juin 2013... Un article était titré « Si on trompe le public, on radicalise les opposants », il disait « Il est juste de qualifier ce processus de faux débat. On laisse croire au public qu'il s'agit d'échanger sur l'opportunité ou non de construire le centre de stockage, alors qu'il n'en est rien. Ou encore, les élus choisissent d'aller au-devant de la population quand les projets sont pratiquement ficelés. » Donc, ce débat bouclé d'avance devait avoir lieu du 15 mai au 15 octobre d'abord. Il a été prolongé au 15 décembre. Et la première réunion sera un fiasco. On peut lire ça sur le site des opposants. Donc, il nous disait, jeudi 23 mai à Bure, Meuse, près de 200 personnes se sont opposées à la tenue de la première réunion du débat public sur le projet CIGEO, qui a été annulé au bout d'un quart d'heure. Elles ont dénoncé et l'utilité de son débat public sur la question des déchets nucléaires et les mensonges et impasses éhontés dont fait preuve Landra dans le dossier présenté à ce débat. Vite, il faut une caution, se dit Landra. Alors c'est un sondage qui viendra aider les nucléocrates dans leur recherche de légitimité. C'est la Commission nationale du débat public qui commande un sondage à Thènes et Sofres sur la Meuse et Haute-Marne, réalisé entre le 14 et 15 juin. Elle titre sur sa page d'accueil « 83% des habitants de la Meuse et de la Haute-Marne pensent que les opposants au projet CIGEO devraient participer au débat public ». Donc voilà, c'est ce qu'elle titre. Mais elle oublie de préciser et d'ajouter une autre donnée. 68% des gens pensent que le débat ne sert à rien et que tout est connu d'avance. Eh oui, miracle des sondages qui disent tout et leur contraire. Alors les opposantes, contrairement à ce qu'ils disent, ont bien participé au débat, notamment le 17 juin à Bar-le-Duc. Ils étaient là.
C'est un mode d'expression tout à fait normal.
Mais c'est pas pour une poubelle.
Et donc, moi je prends en compte.
Voilà, c'était pas facile pour la Commission nationale du débat public. Visiblement, les gens n'ont pas envie de se laisser faire. Alors, de toute façon, il faut faire ce débat public, parce que c'est important de le faire, parce que c'est même obligatoire d'un point de vue législatif. Les trois suivants ont été différés, trois autres ont été purement annulés, et à mi-parcours, le blocage est donc total. Alors, c'est Le Monde qui nous dit « Pour tenter de sortir de l'ornière, la Commission nationale du débat public devait proposer, mercredi 3 juillet 2013, trois solutions alternatives. » C'est ce qu'indique Claude Bernet, président de la Commission particulière du débat public, sur le CIGEO. D'abord, une multiplication de petites réunions locales, moins susceptibles, espère-t-il, de mobiliser les opposants. Ensuite, à partir du 11 juillet, une dizaine de débats contradictoires sur Internet, avec des groupes diversifiés d'experts français et étrangers. Et enfin, avant la fin de l'année, une conférence de citoyens avec un panel d'habitants de la Meuse et de la Haute-Marne qui seront formés au sujet pendant plusieurs semaines, par Landra, et qui rendront un avis. En outre, le processus de consultation sera prolongé de 2 mois jusqu'au 15 décembre. Il faut être réaliste, hein. Pour l'instant nous ne pouvons plus tenir de grandes réunions publiques, commande Claude Bernet. Pour autant, il existe une vraie demande d'information et d'expression dont témoignent les plus de 350 questions et avis que nous avons déjà reçus sur notre site, comme les 23 cahiers d'acteurs enregistrés. Il faut donc trouver d'autres voies pour accéder au public afin que le débat ait lieu. Voilà, on est dans la merde. Donc c'est finalement sur Internet que ce gentil débat se sera passé. Et parce que en direct, c'était compliqué, personne ne voulait laisser parler personne. Et au moins dans le cyberspace, personne ne vous entend crier. Donc voilà, un débat qui est parti en cacahuète. Ce qui n'empêche absolument pas de valider le projet, vu que de toute façon, comme nous le disait un des membres un ancien membre donc de la Commission nationale du débat public, tout est bouclé d'avance. De toute façon, depuis 91, tout allait vers l'enfouissement comme unique solution de gestion des déchets, l'autre étant la transmutation, hein, on y travaille à Bordeaux, a priori, et il s'agirait d'annuler la radioactivité. Ça, c'est le Saint Graal, c'est la carotte agitée devant tout le monde. On pourrait annihiler les effets de la radioactivité grâce à des manipulations. Bon, on joue aux apprentis sorciers. Donc voilà, vous êtes au courant de cette campagne en cours qui a commencé le 1er juin contre la poubelle nucléaire. Libre à vous d'imaginer les actions qui vont avec. Si vous voulez plus d'infos, vous allez voir sur internet à nocigeo.noblogs.org, nocigeo, N-O-C-I-G-E-O, noblogs.org, et vous trouverez toutes les références aussi de tout ça sur canalsud.net. En attendant, et parce qu'une irradiée avertie en vaut deux, je vous propose de réécouter une petite histoire de la contamination nucléaire du monde diffusée dans cette même émission le 7 octobre 2013. Voilà, en tout cas, Bure 365, c'est parti. Il est encore temps d'arrêter cette folie de l'enfouissement, parce que derrière, qu'est-ce qui se cache derrière l'enfouissement? Mais c'est la continuité du programme nucléaire et de la catastrophe qui va avec. Donc, Bure 365 n'attend que vous pour se disséminer partout. Donc, des infos, bien sûr, sur nocigeo.noblogs.org, sur iata.info, et puis sur canalsud.net. Je vous laisse cette fois-ci avec Julien, qui va nous raconter un petit peu cette histoire de la contamination nucléaire du monde. Bonne continuité de ce lundi chômé, que j'espère que vous faites rien et que vous en profitez.
Alligator 427 aux ailes de cachemire, sa frange grille, ma dernière cigarette. Je vous attends sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants. J'ai troqué mon cœur contre...
Dans les folies destructrices engendrées par le capitalisme, le nucléaire se taille la part du lion. L'ère nucléaire ne commence pas avec la bombe, mais à la fin du 19e siècle, dans les arrière-cours des laboratoires. Les chercheurs et chercheuses